CFM Villefranche, le mag.
Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Bon début de semaine. Les lundis, vous le savez, c'est le mag Aveyron, le mag santé, bien-être, fleurette, pâquerette et assiette avec Karine, Vec, Karine avec un K et Vec avec un V, hein. Karine et sans G.
Et sans G, tout à fait.
Karine, là, pour cette première partie, comme de coutume, et puis un petit peu plus tard, toutes les deux semaines, Didier Vallet pour son rendez-vous des hommes, des plantes et de la biodiversité. Dynamie, Didier, tout à l'heure, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, et puis donc praticien en biodynamie. De quoi avez-vous choisi de nous régaler les oreilles aujourd'hui, Karine? Avant-dernière chronique de la saison, après c'est les vacances.
Tout à fait. Et bien justement, pour préparer les vacances, peut-être qu'on peut quand même s'improviser un petit barbecue dans la semaine.
Ben oui,
ça va
parfait.
Nous mettre dans l'ambiance, on va dire, des vacances. C'est souvent associé, les barbecues, et encore pas que, mais c'est quand même souvent associé à la période d'été et notamment des dimanches ou des vacances. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en discuter entre nous.
Barbecue plaisir aujourd'hui dans cette chronique ou
oui,
comment...
ouais. Mais juste avant, c'est important aussi de préciser, vous savez, le réflexe que l'on a, on amène la viande crue du moins sur un plat quelconque, on la fait cuire et on la remet après dans le même plat en fait. Et ça effectivement, pour tout ce qui concerne les intoxications, c'est bien d'avoir deux plats différents, parce que si la viande avait été contaminée, donc vous l'avez crue, vous la faites cuire, il n'y a pas de souci, vous détruisez tous les germes pathogènes, pardon, mais si vous la remettez dans le plat où il reste toujours un petit peu de jus haute, vous recontaminez votre produit. D'accord, donc ça effectivement ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Et tant qu'on est dans l'hygiène et ce genre de choses, dire aussi que même si c'est carbonisé, les grilles qui nous servent à faire les barbecues là, il faut bien les nettoyer.
Bah
ça
oui.
Prend du temps, c'est pas très rigolo effectivement, mais c'est important d'enlever un maximum de déchets avant de refaire cuire une autre viande par-dessus.
Alors, il existe des super petites brosses avec deux en un, avec des petits un peu brosses métalliques d'un côté et puis éponge abrasive de l'autre, c'est pas
voilà,
mal.
Hein,
c'est pas
oui
mal,
oui. Hein. Ça va vite. Alors, j'ai envie de dire que si on le fait à chaud, ça va encore plus vite. Mais bon, c'est vrai, quand on a les invités qui sont là, on n'a pas forcément envie. Mais c'est des petites protections à prendre au jour le jour qui vont permettre de profiter pleinement en diminuant les risques. Chose qu'on ne savait pas il y a 15 ans ou 20 ans de ça. L'alternative étant la plancha. Hein, bien sûr. Mais ça n'a pas tout à fait la même saveur, vous diront certains. Alors après, qu'est-ce qu'on y fait au niveau plaisir, etc. Je crois que tout est permis. Hein. On peut tout imaginer cuire au barbecue. Dans nos régions, tout du moins, la facilité, ça va être quoi? Ça va être les saucisses, les merguez, les petits chorizo à griller, là, vous savez. Ou une entrecôte, ou une côte de bœuf, etc. Ça, c'est vrai que c'est très très bon, mais ça reste des viandes grasses. Et donc, encore une fois, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas très très grave. Si c'est quelque chose qu'on doit renouveler régulièrement, on peut aussi imaginer d'autres choses. On peut passer sur des versions de viande blanche, on peut passer sur des brochettes, vous savez, donc, où on met aussi des légumes, donc pof, on en a déjà un petit peu dans la brochette. On peut imaginer y faire des poissons, les sardines par exemple. C'est très bon.
Faut aimer l'odeur après.
C'est plutôt pour les voisins en fait que c'est ennuyeux. C'est pas tant pour les gens qui les mangent. Ouais. Ça peut être des poissons, des gros poissons entiers si vous voulez. Ça peut être tout un tas de choses.
En papillote, c'est parfait ça.
En papillote. Vous pouvez même dans la braise en effet pour accompagner mettre des pommes de terre qui vont être cuites. Vous savez, vous les entourez d'alu, vous les mettez à l'intérieur. Du coup, c'est des cuissons qui nécessitent aucune matière grasse et qui peuvent être très sympas aussi. Donc voilà, le barbecue, c'est souvent associé, alors, un, à des viandes grasses, voire des charcuteries, et deux, du coup, à des excès de cette famille-là. Hein, bien sûr, parce que vous vous souvenez, hein, les portions de viande, poisson, œuf dont on a besoin par jour, c'est quand même relativement minime, quand même. Et souvent, quand on fait un barbecue, on va goûter un peu de ci, un peu de ça, et on va très vite, et c'est normal, dépasser la quantité. Absolument pas grave. Dans ces cas-là, on sait qu'on a la possibilité de rattraper le lendemain en faisant un plat où il n'y a ni viande, ni poisson, ni œufs. Et du coup, on refait notre bascule. D'accord ?
On boit quoi avec un barbecue ?
Juste, pardon, je reste sur ma quantité de viande de poisson d'œuf. Effectivement, si souvent, comme souvent, on offre l'apéritif avant un barbecue, l'idée, c'est peut-être d'essayer d'éviter justement tout ce qui va être à base, notamment de charcuterie, puisqu'on en a déjà dans notre plat principal. Mmh, mmh. D'accord ? Donc, de passer sur d'autres familles d'aliments pour ce qui va accompagner notre apéritif.
Ouais, ouais, ouais. D'accord ? De la viande, pas de la charcuterie. Vous parlez de charcuterie. On grille de la viande.
Oui, 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 mais je veux dire, à l'apéritif, souvent, il y a des petits ramequins de saucisses ou autres. Ah, oui. Ça rajouterait encore à cette famille-là. Ouais, ouais. Et de la même manière, si je fais par exemple un tiramisu où il y a des œufs par exemple en dessert, il y a de nouveau cette famille-là. Mmh, donc vous voyez, c'est très vite fait sur un seul repas un peu festif de ce style-là, en fait, d'avoir très largement dépassé.
C'est ça qui est bon.
Alors, je ne sais pas si c'est bon, mais...
il y a le sorbet citron qui nous sauve.
Exactement.
Le sorbet bonne conscience, vous savez.
Délicieux.
Ah, oui, oui, oui.
Peut-être
bien sûr.
Bonne conscience, mais délicieux.
Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce qu'on boit, disiez-vous ? Qu'est-ce que vous buvez, vous ? Ai-je envie de vous répondre ?
Ah bah de l'eau, il fait tellement chaud. De l'eau, de l'eau, de l'eau.
Alors
du
c'est
mojito,
vrai.
Évidemment, Karine. Barbecue, c'est mojito.
Ah bon ? Mais en tous les cas...
Non, tout est permis, tout est autorisé. À l'apéro, voilà. Après, après avec un verre de vin rouge, c'est bien quand même.
Oui, il y a des gens qui aiment le vin blanc aussi avec la viande, hein, ça peut. Hein. En tous les cas, l'idée, c'est de connaître les recommandations nutritionnelles, peut-être par rapport à cette quantité d'alcool, on va dire... total. Et encore une fois, si une bonne part de ces recommandations est prise sur notre repas barbecue, c'est prise sur notre repas barbecue. Et le reste de la semaine, on essaye de ne pas consommer d'alcool et ça nous fait cette moyenne.
Mmh.
Je rappelle quand même que dans tous les cocktails, et notamment le mojito, mais tous les autres cocktails, c'est pareil, il y a forcément du sucre qu'on ne va pas trouver, par exemple, dans un simple Ricard ou dans un verre de vin ou une coupe de champagne. Hein, c'est
à chaque fois
qu'on va rajouter un ingrédient.
Enfin, dans tous les alcools, il y a du sucre, hein, de toute façon.
Oui, oui.
C'est carton plein, hein, quand même. Hein.
Tout à fait, mais mojito, vous rajoutez en plus du sucre. Et en plus du sucre de canne. D'accord ?
Ah oui, donc, c'est vrai. Oui,
et oui, oui. Plus parfois un peu de sucre roux. Oui. Donc ça commence à faire beaucoup de sucre pour un verre d'alcool.
Oui, hein. Ouais, mais sinon ça passe moyen le mojito comme ça.
C'est vrai, c'est vrai. C'est moins bon, hein, mais on en boirait moins peut-être. Mais voyez, par rapport à une coupe de champagne, par exemple, le mojito est bien plus élevé en sucre.
Oui,
évidemment,
oui, bien sûr, du fait
des rajouts. Quoi, hein. D'accord ? Et puis pour le plaisir, on n'oublie pas non plus toutes les petites crudités. Et souvent, c'est vrai que souvent j'entends ou je vois sur les relevés alimentaires. Donc barbecue, grillade, admettons, et puis taboulé, salade de riz, salade de pâtes. On peut être innovant, on peut faire des salades de légumes. C'est pas la faim qui va nous torpiller sur ces repas-là, hein, très honnêtement. Donc de faire, par exemple, une salade de courgettes crues qui va accompagner, où on met peut-être des petits bouts de tomates ou des choses comme ça. Du basilic ou autre, ou une salade de tomates, ou une salade ou des aubergines grillées, voyez. Ça peut aussi permettre d'alléger l'ensemble du repas et de faire plaisir et d'être un petit peu plus rafraîchissant peut-être que des choses qui plombent.
Le barbecue aujourd'hui dans cette chronique équilibre alimentaire et vos bons conseils, Karine. Un petit quelque chose à rajouter, en quoi que ce soit, je ne sais pas.
Que le dessert, effectivement, vous disiez sur le ton de la plaisanterie, le sorbet citron. Encore une fois, voilà, là, on mise sur le barbecue, c'est quand même là où il y a le plus gros de l'apport énergétique. Souvent, les gens n'ont plus faim au moment du dessert. Ne vous forcez pas à faire des choses extrêmement lourdes, des sorbets ou des glaces ou une salade de fruits, ça peut contenter finalement tout le monde.
Un bon plateau de fromage quand même.
On a toujours sentiment qu'il nous faut faire riche pour plaire, pour que ça plaise à nos invités. Et en fait, les gens, si aujourd'hui, il me semble, d'avoir des repas qui soient trop lourds, c'est pas forcément ce qu'on vient chercher.
Merci Karine.
À bientôt.
Excellente semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la DER de la saison. Et je crois que vous nous avez concocté un quiz, un petit jeu pour.
Pour finir. On prendra
longtemps.
Les choses plus sérieuses à la rentrée.
C'est sérieux, les gens. On apprend plein de choses grâce à vous. Allez, la suite du programme, un peu de musique. Didier Vallet en studio, spécialiste des plantes aromatiques et médicinales et de la biodynamie. La chronique bimensuelle s'appelle Des plantes, des hommes et de la biodynamie. Didier, après la musique.
CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron. CFM, CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.
Le Mayaveyron, la suite, vous venez nous rejoindre, soyez les bienvenus, la suite avec, comme annoncé, en studio, Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Didier, paysan, spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie, c'est notre dernière intervention de la saison, en tout cas votre dernière intervention de la saison pour cette chronique appelée des hommes, des plantes et de la biodynamie. Et donc comme l'intitulé l'indique, des plantes et de la biodynamie, et des hommes aussi au milieu de tout ça. C'est oui, vous le médiateur, d'ailleurs, oui. Didier.
Les hommes, c'est important quand même, parce que, oui, la nature peut fonctionner toute seule, hein, il n'y a pas de problème. Mais l'homme aussi peut apporter des choses quand même dans la nature. Il peut, par exemple... la nature, l'utilisation des plantes médicinales, c'est quand même l'homme qui l'a observé, hein, qui les a trouvées par des siècles d'observation, que telle plante, ça peut agir pour telle chose, et ainsi de suite. Donc, on voit que l'homme peut avoir une place privilégiée, une place particulière aussi pour aménager, parce que dans nos régions qui sont encore très, sauvegardées, on pourrait dire, hein, y a des paysages, et ces paysages, ils ont été créés par l'homme quand même, quand la nature, je vois chez nous, dans les jardins, si on laissait pendant 10 ans sans intervenir, il n'y aurait plus que des ronces qui pousseraient. Et donc, c'est très bien, hein, les ronces, il n'y a pas de problème. Mais quand les ronces poussent, après, il y a beaucoup moins de choses qui poussent en dessous. Donc, je pense, contrairement à ce que pensent certaines personnes, que l'homme est mauvais pour la nature, que la nature serait nettement mieux sans l'homme, je pense que c'est pas parce qu'il y a des mauvais hommes que faut dire qu'il y a des hommes qui font n'importe quoi, qu'il faut dire que c'est la faute de l'homme. On a assez de connaissances sur la nature, sur le besoin des animaux, le besoin de la biodiversité, pour au contraire la faire augmenter et non pas la faire reculer. Mais bon, c'est un autre sujet.
Ça. L'homme n'est pas raisonnable. L'homme joue contre son camp, en fait. Hein.
Disons que l'homme n'est que dans l'utilitaire et dans le mercantile, souvent quand même. Donc, ne voit que son point de vue à lui, ce qui est immédiatement rentable, entre guillemets, et ne voit pas le reste à long terme. Donc, bon. Et pour en revenir à ce qu'on parlait il y a 15 jours, parce que...
Je m'excuse encore.
Ça, c'est un très bon sujet aussi. On pourra en reparler à la rentrée.
Ah, oui, volontiers.
À la rentrée des classes. C'est un peu plus philosophique, mais la philosophie fait partie de la vie quand même. Et donc, on parlait des rythmes. Là, déjà, on approche de fin juillet. Donc, on commence à s'installer dans la descente de l'été. C'était l'été le 21 juin avec le summum à la Saint-Jean. Le 24 juin, et puis là, on sent qu'on va aller vraiment vers quelque chose qui va aller de plus en plus en descendant, des jours qui vont diminuer, et au mois d'août, normalement, alors maintenant, c'est vrai que les saisons sont bizarres, au mois d'août, avant, vers le 15 août, on avait les orages qui arrivaient, une bonne sécheresse au mois de juillet, puis les orages qui arrivaient au mois d'août, Là, ces dernières années, c'est un peu du n'importe quoi. On a des orages comme on a eu cette année, des orages au printemps, en fait, ou en tout début d'été. Avant, ça ne se voyait pas du tout. On est un peu chamboulé. Alors, est-ce que c'est l'action de l'homme ? Moi, j'en sais rien. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que la Terre ne se comporte pas comme elle se comportait il y a quelques décennies. Disons, moi qui ai déjà un âge certain, je ne retrouve pas ce qui existait dans ma jeunesse. Donc voilà. Alors, je voudrais parler d'une famille qui est vraiment au cœur de l'été. C'est la famille des labiers. Les labiers, ancien nom, maintenant on dit les lamiacées. C'est toutes les plantes aromatiques, en fait. Toutes ces plantes aromatiques, qui sont dans les plantes un peu ligneuses, le thym, le romarin, la sarriette, la sauge. Après, dans des plantes herbacées, on a les menthes, les différentes menthes, les mélisses. Alors, c'est pour ça, dans ce jardin en spirale qu'on a pu visiter ensemble en reportage audio. Il y a déjà 4 variétés de menthe dans cette famille. Il y a la mélisse, il y a l'agasta chanisée, il y a le basilic, il y a l'hysope. Je crois qu'actuellement, il y a l'origan. Je crois que c'est tout, là, pour l'instant, dans ce jardin. Donc, c'est une famille qui... ils ont toutes des fleurs avec une espèce de petit bonnet phrygien au-dessus, et puis comme une piste d'atterrissage en dessous, sur lesquelles les insectes vont venir pouvoir se poser. Alors, elles peuvent être très grosses, comme dans le cas de la sauge sclarée, ou qui font des très grosses fleurs, la sauge sclarée qu'on a distillée là, fin juin. Et elles peuvent être toutes petites, comme dans le cas du thym, ou même de la sarriette, où des insectes ne peuvent pas venir se poser. Donc ils arrivent quand même à venir puiser du nectar, parce qu'on peut avoir du miel de thym, c'est très bon le miel de thym, un peu rude, mais c'est très bon. Donc ça, c'est vraiment cette famille qui est pour moi une famille très en rapport avec la chaleur de l'été. C'est vraiment une des plantes de la chaleur. Alors les menthes, bien sûr, elles ont besoin d'être dans des terrains un peu humides aussi. Oui. Hein, sans chaleur et sans lumière, vous mettez un pied de menthe sous un arbre, même si c'est humide, il va rien donner, il va être malingre. Il leur faut... Alors, plus de la lumière solaire, que la pleine chaleur. Hein. Si vous le mettez dans un terrain très sec, ça ne va rien donner. Mais il leur faut de la lumière. Ça, c'est sûr. Et ce sont des plantes qui donnent beaucoup d'huile essentielle. Et les huiles essentielles, c'est vraiment toujours qu'on distille, donc, que ce soit les menthes, que ce soit le romarin, on dit ça crache, parce qu'on obtient la lavande, on obtient quand même de l'huile essentielle. Alors, de la lavande vraie va en donner moins que le lavandin, bien sûr, toutes ces plantes, alors la mélisse, par contre, la mélisse, elle donne rien comme huile essentielle. Donc ça, c'est... Il y a quelques plantes là-dedans. Alors, je voudrais revenir sur cette famille donc, qu'on récolte beaucoup en été, à part le romarin, qui est plus romarin éteint, c'est plus au printemps, mais toutes les autres plantes fleurissent en été. Elles sont vraiment... ce sont des plantes, alors c'est toujours difficile de décrire avec des mots. Leurs feuilles sont opposées, c'est-à-dire qu'il y a une tige verticale, et il y a une feuille de chaque côté de la tige au même niveau, par étage. Et les étages se superposent, c'est-à-dire qu'un étage inférieur et l'autre étage de feuille au-dessus, de feuille opposée, sont à 90 degrés. Donc on a une espèce de croisement comme ça, à 90 degrés, des feuilles dans un sens, puis de la feuille au-dessus à 90 degrés, puis de nouveau 90 degrés, donc elles sont au même niveau que l'étage, l'avant-dernier étage, si on veut. Et la tige est carrée en plus, il y a 4 angles dans la tige. Donc c'est vraiment une plante, c'est les seules plantes, la seule famille que je connaisse qui soit structurée comme ça, très géométrique. Le carré, le 90 degrés, c'est aussi l'angle du carré. Hein. Et ce sont des plantes qui donnent beaucoup de structure. Et cette structure, on la retrouve dans leur propriété digestive, parce qu'on a des problèmes de digestion, c'est que c'est un petit peu déstructuré dans l'estomac, et donc cette manière de pousser très structurée de la plante va aussi intervenir beaucoup. Ce sont des plantes très digestives, la plupart sont des plantes qui agissent sur le foie. Et alors, la relation du foie et de la structure, faut voir que le foie est l'organe de filtration quand on mange, quand on mange des aliments, on va les dégrader, on va les casser en petits morceaux pour en garder qu'une certaine partie qui va partir dans le sang. Et c'est le foie qui filtre pour retirer les, ce qui serait mauvais pour aller dans le centre, quelque part. Et le foie, c'est assez amusant, faut regarder l'étymologie, disons les comparaisons de mots de temps en temps. On a le foie, en français, c'est le foie et on a la foi. Mmh. Qui a une certaine structure de pensée, si on veut. Et en allemand, le foie se dit Leber. Et Leben, c'est la vie.
Ah oui.
Mmh. Et donc, on voit un petit peu la relation qu'il y a entre le foie et la vie. Et ces plantes qui soignent le foie et leur structure très elles vont pas dans la dentelle et elles sont pas très poétiques en fait. Mmh. Et elles sont toutes elles attirent énormément les insectes. Il suffit de voir là on a fini de récolter la fin juillet, on a fini de récolter la lavande. Quand on récolte la lavande, on est dans un nuage de papillons, d'insectes, d'abeilles. Vraiment, on est dans un monde très, très, très en rapport avec la vie animale aussi.
Pour ponctuer la saison et peut-être cette dernière, c'est l'été. Mollo sur le mojito, prenez soin de votre foie. Voilà. C'est un organe de vie, qui...
Et n'hésitez pas à mettre du basilic et de la menthe dans vos salades et voilà, c'est vraiment très, très bon. Et une branche de menthe dans une bouteille d'eau passée au frigo, laissez macérer, ça donne une boisson très rafraîchissante.
Eh ben, on va partir avec ça cet été. Merci Didier. Juste petit rappel de principe, les plantes et leurs vertus médicinales, ça sera l'objet de votre dernier stage, dernier atelier. C'est le week-end prochain. Masse de Jam, on tape ça. Il y a toutes les infos pour les renseignements, les inscriptions. Le 23 juillet pour boucler cette série que vous nous avez proposée cette année. Merci Didier, d'excellentes, plein de belles choses pour cet été. Et on se donne rendez-vous en septembre. Merci.
Au revoir David.
CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.